Par ici la musique aujourd'hui à partager avec Grégoire Mona qui vient de sortir un album intitulé Grégoire Mona Trio. Un album de ses propres compositions qu'il interprète à la guitare, parfois aussi influencé de Schubert, de Bach ou d'un de ses pays de prédilection, la Yougoslavie. Grégoire Mona nous fait partager ses passions durant une demi-heure. Il nous fait voyager également. Grégoire Mona, l'invité de Par ici la musique.
La musique.
Où est-ce qu'on a mis toutes ces musiques de Grégoire Mona ? On va sortir ça parce qu'il y a quand même des choses tout à fait étonnantes et vous allez voir que le voyage que l'on va faire aujourd'hui avec Grégoire, c'est un voyage assez étonnant dans le monde de la musique et du temps. Il t'arrive parfois de revenir dans le Jura, de venir un petit peu par ici, histoire de goûter l'air jurassien.
Oui, bien sûr, tant que je peux. En même temps, j'ai une vie assez active. Maintenant, je suis établi en Valais, donc pour des raisons tout à fait privées. Ma future femme est valaisanne. Bon, là, on tâte un petit peu le terrain, l'air jurassien. En effet, on réalise aussi que on a plus 20 ans, donc je suis impressionné quand je vais dans les bistrots et je me dis, tiens, mais en fait, où sont mes amis de 20 ans? Mais en fait, il y en a d'autres qui ont 20 ans et c'est moi qui ai plus 20 ans. Donc bien sûr, je reviens dès que j'ai l'occasion. Ouais.
La composition, c'est un des aspects qui t'intéresse le plus dans le monde de la musique.
Oui, je pense. Je suis guitariste quand même avant tout. J'ai fait l'école de jazz à Lausanne. J'ai mon diplôme professionnel de guitariste et musicien. Et c'est plutôt l'aspect composition qui m'intéressait en fin de compte. J'ai réalisé que j'ai beaucoup écouté de guitaristes, mais pas que des guitaristes. J'aime tous les instruments. J'aime particulièrement le hautbois. Donc j'aime énormément d'instruments. Et la guitare n'est pas forcément mon instrument préféré. Si j'étais guitariste, j'aurais pu être autre chose, j'imagine. Et en fin de compte, voilà, ce que j'aime, c'est agencer tous les sons, trouver des couleurs. Et en tant que guitariste, j'ai réalisé que je jouais de plus en plus comme un compositeur qui fait de la guitare. Au niveau de la composition, je suis sorti diplômé donc en tant que guitariste de l'école de jazz et je me suis dit, tiens, en fait, ce que j'aimerais faire, c'est de la composition. Dernièrement, j'ai repris ma guitare pour faire cet album. Je l'ai consacré entièrement à la guitare, aux guitares électriques, acoustiques, 12 cordes. Je l'ai consacré à la guitare, mais c'était une façon un petit peu de renouer avec l'instrument puisque je l'avais pas mal utilisé pour accompagner des chanteurs en tant qu'accompagnateur et parallèlement je composais pour d'autres instruments que la guitare. Là, je me suis dit, maintenant je vais faire un album où je fais mes compositions et je joue tout de même de mon instrument fétiche.
Par ici, la musique.
Comme beaucoup de monde, par la flûte à bec, dans le cadre de l'initiation musicale. Alors, il y a un truc que j'ai pas fait comme tout le monde là, c'est que j'ai vraiment continué loin la flûte à bec. Et j'étais destiné. je me pensais être vraiment destiné à faire le conservatoire de musique ancienne, en l'occurrence la Schola Cantorum à Bâle. Et il fallait un deuxième instrument. Je me suis dit, comme deuxième instrument, je vais choisir la guitare plutôt qu'un instrument à clavier. Puis ma foi, c'est ce deuxième instrument qui a pris le dessus. Donc en fin de compte, j'ai dévié rapidement dans la trajectoire. Et je me suis dit, je ne vais pas faire la Schola Cantorum. Je vais faire la guitare et la musique actuelle. J'ai toujours été partagé donc, entre mon amour pour la musique ancienne, la musique baroque, la musique de la Renaissance. Et mon amour pour Pink Floyd, Zappa. Frank Zappa, ouais, bah, tiens, on est bien synchro là, oui, etc. Donc je suis parti plutôt dans la musique actuelle et sans du tout renier mon parcours de musicien classique parce que j'étais allé assez loin au niveau de mon étude de la musique baroque. J'ai fait plusieurs stages, académies, séminaires. Maintenant, sans faire exprès, je fusionne un petit peu toutes les musiques que j'écoutais. Là, on parle que de Zappa et la musique baroque, mais j'ai écouté aussi beaucoup de musique, notamment beaucoup de musique balkanique. Je suis assez passionné de musique balkanique, des rythmiques impaires qu'on trouve en ex-Yougoslavie, en Bulgarie, avec la musique modale. J'aime beaucoup Coltrane également, j'ai toujours aimé Coltrane ou Miles Davis. Donc maintenant, un peu sans faire exprès, dans mes compositions, je fusionne un peu tout ça. Voilà, dommage, je fais de la musique instrumentale, mais enfin, on retrouve beaucoup. Pour m'accompagner sur scène, j'ai un guitariste bulgare. Donc sur scène, nous sommes un trio. Nous sommes trois guitaristes, évidemment, contrairement à l'album où je suis tout seul et j'enregistre toutes les parties superposées. Sur scène, nous sommes trois et j'ai notamment un guitariste bulgare, Dimitar Ivanov, qui s'est senti appelé par ma musique, par le côté balkanique de ma musique, voilà, qui lui rappelait tout à fait son pays.
La musique.
Je pense que tes influences musicales, elles viennent, enfin je pense, c'est par rapport à la discussion qu'on a eue il y a quelques minutes, j'imagine qu'elle vient du fait que ton père est un passionné de musique et qu'il a écouté aussi bien John Coltrane, le jazz, la musique classique, et que finalement c'est ça qui a forgé ton esprit musical.
Oui, alors là c'est sûr que j'ai eu de la chance, hein, mon père étant très mélomane, il avait...
Il fait de la musique ?
Il est très mélomane, il a jamais réellement fait un instrument de façon académique, il est très bon pour faire des boogie-woogie improvisés au piano, il ne sait pas lire une partition, donc, mais il est très mélomane, hein. Il aurait été, s'il avait appris de façon assez un peu plus académique la musique, il aurait pu aller assez loin dans la pratique d'un instrument, mais donc il a assez touche à tout, il a beaucoup d'intuition pour la musique, mais il est surtout mélomane, ce qui est énorme. Mais c'est sûr que dans sa discothèque, il y avait le sac du printemps que j'ai découvert donc très très tôt. Hein, dès que j'étais en âge de marcher pour me servir moi-même d'un d'un vinyle et le mettre sur le tourne-disque à l'époque. Et donc moi j'ai passé en boucle le sac du printemps d'Igor Stravinsky.
À quel âge?
Bon, pour pouvoir mettre un vinyle sur la platine sans tout casser, sans tout rayer, je pense que j'avais 4 ans, 5 ans, je pense, ouais. Ouais, j'ai écouté Béla Bartók aussi, il y avait un vinyle de Béla Bartók, j'écoutais en boucle Equinox de John Coltrane, j'écoutais également, évidemment, comme beaucoup, le Pierre et le Loup de Prokofiev. Ma mère a supplié mon père de m'acheter un casque audio parce qu'elle en avait marre d'entendre Pierre et le Loup en boucle. Donc là, j'ai eu une chance inouïe. Mon père n'était pas tellement, il n'y avait pas beaucoup de disques de pop, de musique pop. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par moi-même. Je suis devenu un fan quasi inconditionnel, notamment de Pink Floyd. Et ça, c'est des choses que j'ai plutôt découvert par moi, par le biais d'émissions, à la radio, ce genre de choses.
Tu as parlé du Sacre du Printemps, on va en parler quelques minutes. Tu disais que c'est un disque que tu découvres très tôt, donc tu entres très tôt dans la musique. Tu la découvres encore aujourd'hui, cette musique de Stravinsky?
Oui, constamment, oui, j'ai entendu dernièrement une version incroyable pour deux pianos et percussions. Alors oui, je l'ai en l'occurrence sur mon téléphone portable pour mes trajets en train, je l'ai encore maintenant. Bien sûr, je redécouvre continuellement. Je suis toujours en train de me poser la question de savoir si je préfère la version de Pierre Boulez au niveau de la direction ou celle de Simon Rattle, celle que j'écoutais tout à l'heure dans le train. Bien sûr, je découvre toutes ces versions et je suis passionné de la partition. Je me suis acheté les partitions que je lis aussi de temps en temps dans le train. C'est aussi un livre de chevet. La partition de Stravinsky qui est absolument passionnante.
Comment tu la lis, cette partition de Stravinsky?
Bon, là, je la lis peut-être de façon quasi professionnelle. C'est-à-dire vraiment, ouais, technique. Je me dis, mais ah, bon, déjà, il m'a fallu du temps pour apprendre que... pour réaliser que l'instrument qui fait l'introduction, le premier motif au début du Sacre du Printemps, n'est pas un hautbois, mais un basson qui joue dans les super aigus. Donc ça, je l'ai appris il y a des années quand même. Enfin, à 10 ans, je me suis pas dit, tiens, c'est évident, c'est un basson qui joue dans les aigus. Ça me semble normal.
Pourtant, il est bien présent dans Pierre et le Loup, ce basson aussi.
Oui, mais il joue dans la tessiture habituelle du basson. Tandis que Stravinsky, en fait, pour la petite anecdote, Stravinsky avait entendu le bassoniste se chauffer en coulisses avant la première du Sacre du Printemps, et ce bassoniste jouait le motif écrit pour le hautbois. Il s'amusait à se dire, ah bah tiens, je veux jouer comme ça pour me chauffer ce motif très aigu. Et puis Stravinsky s'est dit, mais en fait c'est génial, c'est pour le basson dans les aigus que je devrais jouer que je devrais composer cette introduction. Et du coup après il a réécrit, parce que le Sacre du Printemps il y a plusieurs versions, après oui, il a réécrit une grande partie de Sacre du Printemps, notamment en mettant l'introduction mythique jouée par le basson dans les aigus. Mais moi je lis la partition donc de façon assez technique, je me dis, ah waouh, c'est complètement fou quoi, il y a le tel et tel instrument qui joue en 5-8 pendant que le violoncelle joue en 3 temps. Et, enfin, il y a une polymétrie invraisemblable. Je trouve ça bon, extrêmement complexe. Et ce qui me fascine chez Stravinsky, c'est que c'est très complexe à jouer, à lire, en effet. Mais en même temps, il y a un côté très organique dans sa musique. Je trouve qu'il y a un côté... ça m'étonne pas que les gamins aiment cette musique, enfin que je l'ai aimé moi, parce que je trouve que c'est très très imagé. C'est ça qui m'a toujours passionné, c'est la musique imagée. Pink Floyd, Stravinsky, Prokofiev, c'est très imagé. Et c'est génial, Stravinsky, d'avoir fait quelque chose de si organique et de l'avoir transposé, ma foi, de façon complexe, parce qu'à un moment donné, c'est... Les rythmes ne sont pas toujours réguliers dans la vie. Dans le Sacre du Printemps, on entend tout. C'est la nature, c'est des chants tribaux, tout ceci est retranscrit de façon fidèle à ce qu'on peut entendre dans la nature, si on veut. Mais du coup, ça donne quelque chose de complètement délirant au niveau de la partition, d'une complexité folle, fascinante.
Une de tes compositions est intitulée Igor à Saint-Gingolph.
Oui, alors... C'est une composition. Maintenant, j'habite en Valais, donc dans le Bas-Valais à Saint-Gingolph, et c'est une composition que j'ai faite dès le moment où on a emménagé. Je l'ai appelé Igor à Saint-Gingolph. C'est un hommage à Saint-Gingolph, et j'ai fait un thème un premier thème qui rappelle le fameux thème de basson du Sacre du Printemps. C'est un petit clin d'œil. Ouais. J'ai fait un petit clin d'œil à Stravinsky, ma foi, qui habitait en Suisse, mais pas à Saint-Gingolph.
Par ici, la musique.
La vie continue, c'est une autre composition. On quitte Stravinsky parce que j'imagine qu'on pourrait en parler pendant 100 ans, puisque le sacre a un siècle. La vie continue.
J'ai fait ça un peu, il y a une espèce de... Bon, c'est déjà pour quintette de bois. Donc, si mes souvenirs sont bons, il y a un contrebasson. C'est pas très usuel dans les quintettes de bois. Et le reste, flûte, hautbois, clarinette et puis basson. J'ai fait une espèce de motif, c'est un motif très répétitif de contrebasson qui joue des quintes, un peu comme un cœur qui bat. Et il y a un petit côté comme ça qui continue, à un moment donné, ça s'arrête progressivement, ce leitmotiv de contrebasson. Et il y a une espèce d'écho comme ça joué dans les aigus par les autres instruments. Ensuite, ça part de façon très lyrique. Les harmonies s'emboîtent, ça module. C'est très très lyrique, un motif d'arpège joué par la flûte. Avant de revenir à cette pulsation, ça morceau avec une grande pulsation intérieure, comme une vie qui pourrait s'arrêter comme ça, assez brusquement, et qui reprendrait. Voilà, c'est un morceau qui pourrait être léger tout en étant assez mélancolique, je trouve. Voilà, de cette vie qui peut s'arrêter, mais qui malgré tout continue d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc ça fait, c'est un morceau que je trouve assez imagé. J'ai toujours un petit peu de peine à parler de mes morceaux, de dire exactement comment je les ai composés, pourquoi je les ai composés. En même temps, j'aime bien, contrairement à la littérature, les choses sont noires sur blanc. En musique, on peut extrêmement nuancer, je trouve, de par le biais du contre-champ, du contrepoint. Et il peut y avoir une partie, un instrument qui joue quelque chose d'un petit peu lancinant, et un autre instrument qui, au même moment, joue quelque chose de très lyrique. Je trouve qu'on peut nuancer. Il y a plusieurs couches, je trouve, dans la composition. C'est pourquoi j'ai un petit peu de peine à parler de mes compositions, parce qu'en même temps, c'est suffisamment ouvert. Hein. Parfois, j'entends des commentaires des gens qui me disent « Ah ouais, j'ai vu clairement ça !» Et moi, je me dis « Tiens, c'est drôle, c'est pas tout à fait ça que j'imaginais. J'aime cette ouverture !»
Par ici la musique.
Il y a quelque chose de très important dans cet album parce que tu as mis tout ce que tu as vécu en musique depuis toujours.
Oui, je pense que c'est un peu la quintessence de mon parcours musical, hein, puisque j'expliquais tout à l'heure que j'étais passé par beaucoup de styles de musique, hein, des styles que je n'ai pas juste approchés, hein, que j'ai pratiqué et écouté à fond. Et c'est un disque qui fatalement fusionne toutes mes influences. Hein. On trouve, il y a peut-être un aspect lyrique à la Pink Floyd, il y a des morceaux qui peuvent faire très balkaniques, en même temps qu'un tout cohérent. Et puis, il y a aussi un rappel des sources, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore cité, je suis un inconditionnel de Jean-Sébastien Bach. Et j'ai voulu faire deux pièces qui sont issues de Bach. Il y a notamment un extrait du clavier bien tempéré, morceau donc qui n'est pas du tout conçu pour guitare, hein, mais je me suis dit, tiens, je vais retranscrire fidèlement la partition. pour trois guitares, en me disant tiens aussi c'est des guitares. Je trouvais que ça sonnait presque mieux, c'est un peu iconoclaste ce que je veux dire, à la guitare qu'au clavecin par exemple. Oui. Parce qu'il y a le phrasé, j'ai presque le prélude en mi mineur que j'ai repris, en plus il est dans une tonalité très guitaristique, je me suis dit tiens, on dirait presque Bach l'a composé pour guitare. Je joue en l'occurrence avec des guitares acoustiques à cordes métalliques, donc ce qui peut un peu rappeler le clavecin, mais avec le phrasé de la guitare. Et je trouve que cette composition-là, prélude en mi mineur, se prête à merveille au phrasé de la guitare acoustique. J'ai aussi repris une sonate, un extrait, une sicilienne pour flûte et accompagnement. Donc là, je renoue aussi accessoirement avec la flûte. Je ne joue pas de flûte sur l'album, mais j'ai fait un arrangement pour trois guitares de cette sonate pour flûte.
Est-ce que tu es un sculpteur, un ciseleur de notes et de musique, Grégoire Mona?
Oui, je pense que c'est...
Quand tu en parles, c'est toujours avec beaucoup de précision. Lorsque l'on voit le disque, il y a les instruments, on dit de quel instrument on joue. On comprend même pourquoi tel instrument est utilisé pour tel morceau. Et je me disais que le son, l'instrument, la musique, la note qui est choisie, le temps qui est donné, le ton qui est donné, tout ça a une importance, je dirais presque capitale dans ton esprit de musicien.
Oui, c'est gentil, moi, je prends ça pour un compliment parce que, en effet, je réalise presque maintenant en direct. Hein, effectivement, je suis assez précis dans mes compositions, tout est cité, tout est pensé. Mm-hmm. C'est sûr que moi, je compose énormément, donc si par hasard un jour j'ai rien de particulier à faire, je vais me lever et je vais me mettre à la composition, que j'ai une commande ou pas. Hein, donc, je compose sans arrêt et c'est sûr que. J'ai rapidement les idées, mais je peux passer beaucoup de temps, en effet, à concevoir une note, oui, mm-hmm. Tout à fait. Puis au niveau des partitions, cet album, donc, je le répète, je l'ai fait seul, mais je suis arrivé en studio avec les partitions très précises des trois guitares ouais. que j'allais superposer. Ouais. Donc, il y a un aspect de précision peut-être artistique, mais aussi un aspect pratique. C'est-à-dire que, bon, ben, le studio, il vaut mieux y passer le moins de temps possible. Enfin, j'entends par là que le compteur tourne et qu'on n'a pas intérêt à se ramener en se disant « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Donc tout était assez précis, mes partitions étaient précises à la moindre nuance, ça c'est évident.
Une autre commande, et c'est d'ailleurs pour cette commande que tu es dans la région aujourd'hui, c'est Oval Trio qui prépare un nouvel album, Oval Trio avec Michel Zbinden, Baptiste Grand et Mathieu Schneider à la flûte. Oval Trio, c'est quand même assez particulier, c'est un univers musical dans lequel on se plonge volontiers et ils t'ont demandé de créer quelques compositions pour eux, ce qui est un cadeau j'imagine.
Enfin, oui, alors ça, c'est pour moi, c'est l'idéal, oui, bien sûr. Parce qu'à un moment donné, on en avait déjà un petit peu parlé, nous deux, avant. Mais je me suis dit, tiens, je me sens avant tout compositeur, j'aimerais composer. Et en même temps, c'est pas facile de vendre, entre guillemets, ses compositions. Et parallèlement, là, il y a l'idéal qui se passe, c'est-à-dire le Oval Trio me commande, en l'occurrence, deux compositions pour leur deuxième album qui va être enregistré cette année. Pour moi, ça, c'est parfait. J'adore cette façon de faire. J'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup cette formation. Marimba, vibraphone, flûte traversière, je trouve que c'est un mélange de couleurs intéressantes. Et c'est des gens aussi qui ont une formation autant jazz que classique, donc ils sont ouverts. Moi, je m'en donne à cœur joie aussi, ils m'ont donné une très très belle carte blanche.
Je propose qu'on termine l'émission avec une composition et un extrait du disque du Grégoire Mona Trio. Si tu devais terminer l'émission, là, tu terminerais avec quelle pièce ? Avec l'épitaphe ?
Ah bah avec l'épitaphe, logiquement, oui. J'allais le dire. Oui, c'est difficile de dire quel est mon titre préféré, mais je pense sincèrement que c'est l'épitaphe. Voilà, c'est aussi un morceau que j'aime beaucoup jouer sur scène. Alors, c'est un morceau que je joue seul. Je joue avec une guitare électrique, un e-bow qui est une espèce d'archet électronique qui produit un son continu, et un looper, hein, donc je mets en boucle ce que je joue, et ça c'est délicat à faire sur scène, mais c'est assez extraordinaire. Et c'est un album en hommage à la Yougoslavie, parce que le thème de mon album, même s'il n'a pas de parole, je ne chante pas, le thème est la Yougoslavie. Il commence avec l'ombre de la Sava étant un fleuve d'ex-Yougoslavie. Et nous expliquons avec ma compagne dans le carnet, puisque nous avons fait ce livret à quatre mains, pourquoi ça se réclame de la Yougoslavie, pays donc pour lequel je me suis passionné depuis quelques années. Je me suis rendu plusieurs fois en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Slovénie. Je me suis mis à apprendre le serbo-croate aussi.
Ah oui.
Oui. Donc j'ai décidé, c'est une de mes passions.
Tu as joué là-bas ?
Alors ça, j'aimerais bien. Et mon site internet, ah oui, ça d'ailleurs, on peut peut-être le citer, c'est grégoiremona.ch. Mon site internet va être prochainement, enfin, il est retraduit en serbo-croate. Cette partie serbo-croate va être prochainement mise en ligne. C'est pas encore le cas, mais les traductions, c'est tout fait. Voilà, il suffit, maintenant c'est juste la technique, ma foi, il faut quelques éléments techniques pour qu'il y ait la partie serbo-croate. Alors, effectivement, dans le but de jouer là-bas, voilà, ça fait pas très longtemps qu'on a commencé les concerts avec le trio, mais c'est sûr que ces temps-ci, je suis en pleine administration, comme très souvent dans la musique, on passe beaucoup de temps à faire de l'administration, et notamment, ça fait partie de mes priorités, c'est des contacts là-bas. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de possibilités de jouer, puisque, ma foi, j'ai presque l'habitude de m'y rendre. Nous avons constaté que il y avait énormément de musique partout. Je veux dire, dans chaque bistrot, chaque restaurant, il y a son orchestre, que ça soit de musique traditionnelle, musique pop, de tout style. Donc à un moment donné, on choisit presque son bistrot en fonction de la musique qui y passe. Et c'est de la musique toujours directe. Donc je veux dire, c'est intéressant. Il y a des leçons à retirer de ça. De se dire que tiens, qu'il y a de la musique, ma foi, partout, et dans les bistrots. Il y a des gens, ma foi, qui reçoivent des cachets pour jouer dans les bistrots. On connaît des personnes qui ont payé leurs études au conservatoire en ex-Yougoslavie, en jouant de la variété, par exemple, dans un restaurant, pour la petite anecdote.
Merci Grégoire Mona de nous avoir fait partager quelques-unes de ses passions musicales, des passions musicales qu'on retrouve dans cet album, Grégoire Mona Trio. Je pense qu'on aura l'occasion, une fois ou l'autre, de se retrouver pour reparler de musique. Merci beaucoup et bonne journée.
Mais merci à vous, bonne journée, bonne écoute.
Par ici la musique.